Bah, en fait, je côtoie de façon quotidienne ou quasi quotidienne les migrants du camp vietnamien. Et dans le cadre d'une enquête de police, j'ai été interpellée à mon domicile à 6h du matin, le 22, et mise en garde à vue pour une durée de 48 heures sur laquelle je n'ai effectué que 33 heures. J'ai été libérée, je suis libre, j'ai pour l'instant aucun chef d'accusation et pas de mise en examen et pas reçu de convocation de la part de la police de l'air et des frontières.
Comment ça s'est passé? Quelles étaient leurs raisons à ce moment-là?
Bah, leur raison, c'est en fait que mon numéro circule au sein des migrants parce que bah, en fait je me débrouille assez bien en anglais. D'autre part, je suis assez mobile et puis en cas de problème de santé, etc., c'est forcément à moi qu'ils font appel, pardon. Et puis donc mon numéro circule. Mon téléphone avait été mis sous écoute depuis le début du mois de septembre. Donc, dans le cadre de ces écoutes téléphoniques, ils ont décidé de procéder à mon interpellation. D'autre part, ils doivent avoir des photos de moi quotidiennement s'ils prennent des photos des gens qui rendent visite aux migrants sur le camp.
Alors, j'imagine que vous avez été interrogé. Ils vous soupçonnent de quoi d'être un passeur?
Alors pour eux, en fait, moi, j'aurais, enfin, la case sur leur organigramme, j'étais la logistique des passeurs. Moi, je suis absolument pas la logistique des passeurs. Concevoir que je sois logisticienne au niveau du camp, dans le sens où j'organise un peu la vie du camp, à savoir le chauffage, l'eau, les besoins sanitaires. Je ne suis pas la seule à le faire avec d'autres bénévoles, on le fait, enfin avec tout le collectif Fraternité Migrants. Pour autant, on me reproche d'avoir hébergé des migrants, oui, parce que leur état de santé nécessitait un hébergement. Et on peut pas les laisser dans un camp, même si c'est pas un camp en fait comme on peut les avoir sur la côte. Il y a une particularité à Angres, ainsi qu'à Noranfonte, bien qu'à Angres on soit encore, enfin un peu mieux loti, on va dire. Mais la particularité, c'est effectivement, je les ai hébergés et je communique avec eux assez facilement. En plus, j'ai gardé beaucoup de contacts, donc aux yeux de la police, c'est suspect.
Alors 33 heures de garde à vue et puis vous nous disiez donc pour l'instant pas de nouvelles, pas de poursuites judiciaires en fait.
Non, pas de poursuite judiciaire. Par contre, bon, ma maison a été perquisitionnée. Bon, ça a été fait correctement. On n'a pas jeté mes affaires par terre, retourné mes tiroirs, mais enfin, on a ouvert beaucoup de choses. On a aussi saisi tout mon matériel informatique, mes appareils photo et mes téléphones. Et en fait, tout a été copié. Dans le cadre de l'enquête, et alors ça m'indigne particulièrement parce que enfin, c'est ma vie privée. Qu'on mette sous scellé certaines pièces, je peux le concevoir. Par contre, qu'on copie tout et qu'on ne sache après absolument pas ce qui va en devenir, je trouve ça intolérable.
Alors, il y a un comité de soutien qui s'est monté autour de vous, autour de cette affaire?
Alors, le collectif Fraternité Migrants avait enfin, le temps de ma garde à vue, organisé une conférence de presse pour dénoncer la garde à vue des bénévoles, enfin, sur lesquels la police fait pression comme moi, parce que c'est déjà arrivé à Noranfonte. En fait, c'est un délit de solidarité. D'autre part, l'article que la police cite est assez flou. On nous donne toujours que le premier alinéa, et en fait, il y a plusieurs alinéas, et le quatrième est beaucoup plus flou que le premier. D'autre part, il y a des gens qui ont été déjà mis en garde à vue, qui ne savent toujours pas en fait quelle va être la suite qui va être donnée, etc. Donc, pour dénoncer tout ça, le collectif Fraternité Migrants a effectué une conférence de presse à laquelle je n'ai pas participé. Moi, j'avais besoin de faire un petit peu le point entre ma famille, mes enfants, qui étaient quand même un petit peu perturbés. Donc, voilà, j'ai décidé de créer un comité de soutien par la suite, en fait.
Alors, on va évoquer le camp de migrants d'Angres, hein, le camp de migrants vietnamien. Vous parliez de relatives bonnes conditions d'un camp un peu mieux que ceux qu'on peut trouver sur le littoral du Pas-de-Calais et du Nord. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ce camp?
Alors, en fait, ça n'a pas toujours été le cas, parce on a déjà été dans un premier camp, enfin, les migrants vietnamiens étaient dans un premier camp qui, en 2009, a été rasé, tout a été brûlé par la police. Ensuite, il y a eu une opération camp vaisson, c'est-à-dire en fait on avait mis des tentes sur la place. Suite à la suite de ça, en fait, les gens se sont enfuis et moi et deux autres personnes du collectif les avons retrouvés dans un bois, dans des conditions de vie, enfin pas manger depuis 24 heures, avec des sacs poubelles sur la tête, baignant dans l'eau, enfin des conditions de vie indignes de tout être humain. Et à la suite de ça, en fait, on a essayé d'améliorer un petit peu le quotidien de ces gens sur le site sur lequel ils s'étaient établis. Et puis, en fait, on avait beaucoup de problèmes parce que c'était un ensemble de propriétés privées et les propriétaires ne toléraient pas la présence de migrants. Surtout que c'était un terrain de chasse, donc c'était très important pour eux. Et d'autre part, on est avec la municipalité, elle nous a proposé un terrain, en fait, sur le territoire de Rangres, un terrain communal, ou sur lequel on a pu mettre des tentes, des centres, etc. Et on avait la possibilité, en période de très grand froid, d'avoir accès à une salle municipale qui a malheureusement été détruite, ou heureusement, enfin, mais pour les migrants, c'était un peu malheureux. Et comme il y avait une maison abandonnée, on a eu l'autorisation de retaper un peu la maison et de les mettre à l'abri du froid et de leur donner des conditions de vie plus décentes que ce qu'ils avaient auparavant.
Alors peut-être pour donner une idée aux auditeurs, ça représente combien de personnes sur le camp en même temps et puis combien de gens sont passés par ce camp depuis ces derniers mois, ces dernières années? Est-ce que c'est en évolution?
Ah non, c'est en intégration. Il y a très peu de Vietnamiens qui cherchent à passer. Enfin, vous dire combien sont passés, c'est impossible pour moi parce qu'en fait, il y a des gens qu'on ne voit même pas. Par contre, il y a beaucoup plus de bénévoles sur Angre. En fait, on a un collectif de bénévoles qui est très important par rapport au nombre de migrants et par rapport à d'autres camps. C'est la particularité de Angre et de nos enfants aussi, je pense, c'est très fraternel, donc on est nombreux à s'occuper de migrants. Savoir combien il y a de personnes qui sont passées, c'est impossible à dire, parce qu'en fait, il y en a qui n'arrivent pas à passer, qui sont repris à la frontière en Angleterre, renvoyés dans des pays de l'Union européenne, avec l'espace Schengen et avec leur prise de leurs empreintes. Enfin, ça, nous, on est incapable de vous dire combien de personnes sont passées et combien au quotidien il y a de moins en moins de monde sur le camp. Après, pour le reste, ça c'est impossible de vous dire qui est où. Nous, on n'a aucun contact avec les personnes par la suite, quoi. C'est très très dur, sauf quelques-uns, mais c'est très rare quand même.
Vous parliez de la solidarité des habitants d'Angres et de Noranfontes. Comment ça se passe un petit peu l'aide? C'est faire des repas, des choses comme ça?
Non, en fait, on a l'aide du Secours Populaire, d'autres organisations comme Amnesty, etc. Quand on organise quelque chose comme le Jungle Tour, enfin quand ils organisent quelque chose comme le Jungle Tour, et d'autre part, en fait, c'est du bénévolat. On a la municipalité qui nous aide à avoir de l'eau potable tous les jours, en plus du lieu de vie. Et puis après, il y a quelques municipalités qui donnent un peu d'argent pour pouvoir acheter du pétrole, pour pouvoir chauffer un peu les gens ou un peu d'essence, pour pouvoir faire fonctionner un groupe électrogène. Voilà. Après, les dons de vêtements, en fait, ils sont faits par la fraternité à Angres. Enfin, bon, c'est le système D, hein, surtout. Et on n'a pas de prise en charge financière à part la plus grosse partie, pas financière, mais la plus grosse aide, c'est la mairie de Rennes qui entre guillemets loge les migrants, et pour le reste, c'est un peu le système D. Ce sont pas des bâtiments, en fait, ce sont des bâtiments qui sont voués à la destruction, donc ce sont pas des logements en bonne et due forme, c'est une maison désaffectée qu'on a retapée un peu. Voilà, ce sont pas des logements, ils sont pas dans des appartements, ce genre de choses, quoi. Il faudrait pas que les gens s'imaginent non plus qu'ils sont dans des maisons, c'est un peu du bric et de broc, et voilà. Mais ils sont plus sous une tente. J'espère que d'autres bénévoles n'auront pas les mêmes soucis que moi. Et puis, parce que les gens continueront à devoir aider les migrants, dans le sens où ces gens existent, on ne peut pas les ignorer. Le phénomène de migration, il a toujours existé, notamment dans le Pas-de-Calais. Donc, voilà. Et en tout cas, merci à tous de me soutenir dans ce combat.
Donc il y a une pétition qui tourne, on peut la retrouver quelque part en particulier ou...
Alors, il y a une pétition qui tourne et qui la mairie de Angres a accepté de recueillir des signatures et elle a mis une urne, en fait, au niveau de la mairie. Et après, il y a une pétition qui circule aussi sur Internet, http://alternative.blog.free.fr.